Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est quoi déjà? Juliane, d'être entrée en contact avec nous et de nous avoir invités, c'est vraiment, on apprécie beaucoup. Merci de me faire confiance aussi, malgré mon jeune âge. Ça va me donner un peu plus d'expérience. Je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi ce matin, de me fier à la parole de Dieu. J'ai l'occasion de prêcher à mon église quelques fois par année, quand les pasteurs sont en vacances. Donc, je suis débutant encore, mais j'aime beaucoup la prédication et je suis passionné de Jésus. Et j'espère vous transmettre quelque chose quand même ce matin. Si c'est possible d'avoir le PowerPoint. Je commence souvent, quand je vais dans une autre église puis j'apporte la parole, je commence par me présenter. Là, c'est bien, le pasteur m'a déjà demandé de me présenter, donc ça va être plus rapide. Je me décrirais comme un gars qui aime apprendre dans la vie. J'aime toucher à tout. Et cette image-là me représente bien parce que j'aime apprendre, j'aime la lecture de la parole, j'aime la lecture de d'autres livres, j'aime apprendre. Lorsque quelqu'un écrit un blog, je suis le premier à les lire. J'aime apprendre des choses. C'est pour ça que je finis un deuxième bac, j'aime apprendre. Et je pense que, pour moi, je vais continuer à apprendre toute ma vie. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et j'ai appris la guitare à l'école biblique parce que j'étais un passionné. Je voulais apprendre. Tout le monde jouait, sauf moi. Fait que moi, je voulais apprendre. Et j'ai commencé à jouer de la guitare et aujourd'hui, j'en joue encore. Et aussi, je suis un sportif. Est-ce qu'il y a des sportifs ici? Je suis un sportif. Yes, je suis content qu'il y en ait un. Je suis un sportif, j'ai même toutes sortes de sports. J'ai commencé à jouer plusieurs fois au tennis par semaine cet été. Donc, c'est ça un peu, je voulais me présenter. Et ce matin, j'ai un message pour vous. Si on peut mettre la prochaine... c'est moi qui vais s'en occuper, c'est ça. Ça va être encore plus simple, c'est formidable. Il faut que ce soit vis-à-vis l'ordi. OK. Parfait. Donc, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que, on dirait qu'on est nouvellement marié, tout ça, et je suis dans une phase que je réalise que on a besoin de modèles. On a besoin de personnes là, qui ont 20 ans, 30 ans de plus que nous. En tout cas, je le réalise dans ma propre vie. Et il y a un couple à notre église, particulièrement, qui ont deux enfants. Et un de leurs enfants est dans mon groupe jeunesse, et c'est un enfant qui est tellement, c'est un ado qui est tellement dévoué, il aime Dieu déjà malgré son jeune âge, lorsque je vois ce couple de parents-là, à chaque fois, je les trouve inspirants. Le mari dans ce couple-là, il s'appelle Étienne aussi, ça doit être pour ça que il s'appelle Étienne aussi, et c'est un enseignant d'école, c'est un enseignant de cinquième année, mais le couple est tellement inspirant. Et quand je les regarde, je me dis, je veux ressembler à ça. Je veux que quand je vais avoir des enfants, je veux ressembler à ce couple-là. Je veux que mes enfants grandissent, qu'ils deviennent des ados et qu'ils ressemblent à leurs enfants même. Et à chaque fois que je les vois, je me dis, je veux être encore plus avec eux. Je veux passer encore plus de moments avec eux. Et à chaque fois qu'on les voit à l'église, je vais leur parler en premier parce que je veux entendre comment a été leur semaine. Donne-moi des conseils, parle-moi. On va souvent chez eux, même des fois souper avec eux. On veut entendre ce qu'ils ont à nous dire sur le couple, la famille et tout ça. Et tout ça pour dire que on a besoin de modèles et on fait un peu ça aussi dans notre société. S'il y en a ici, vous avez besoin de conseils au niveau des finances, vous allez aller voir un conseiller financier. On va chercher quelqu'un qui a réussi dans les finances. Et on va s'entourer de toutes sortes de modèles, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la pratique, dans ce qu'on fait. On va s'entourer de modèles autour de nous. Et ce matin, ce que j'avais à cœur de faire dans mon message, c'est qu'on puisse regarder un modèle, mais un modèle, c'est un adorateur. Et ce modèle-là qu'on va regarder ce matin, c'est un auteur, compositeur, interprète. S'il avait été de notre génération, il aurait probablement gagné un Félix il y a quelques semaines. Il aurait probablement gagné peut-être 3-4 Félix. Là. Et dans le fond, c'est le roi David, c'est David dans les psaumes. Et pourquoi je veux qu'on regarde à David ce matin, c'est que à chaque fois que je lis les psaumes, je suis impressionné de voir à quel point David avait une relation intime avec Dieu. Et moi, dans ma vie, je veux devenir un adorateur comme ça. Je veux devenir un adorateur comme David. Et ce matin, on va regarder à deux traits qui m'ont façonné, qui ont capté mon attention chez David. David était quelqu'un de vrai et de confiant. Donc, on va commencer. Oui, c'est vrai, la manette. On va commencer avec le premier point ce matin, vrai. David est quelqu'un de vrai, est un adorateur vrai. Et personne n'aime le faux. Okay? Moi, j'allais dans les camps quand j'étais plus jeune. Et à la dernière journée de camp, ce qu'on avait, c'est que l'équipe qui remportait, qui avait accumulé des points, remportait un gigantesque sundae avec plein de crème glacée partout. Sauf que il y avait des gens qui travaillaient dans la cuisine qui faisaient la même blague chaque année. C'est qu'il y avait une boule de ces crèmes glacées-là, que c'était une boule de margarine, au lieu d'être de la crème glacée. Mais on ne savait pas c'était quel campeur qui allait pogner la boule de margarine. Et c'est un petit exemple pour vous montrer que la personne qui pogne la boule de margarine, là, elle n'aime pas ça. Ça ressemble à la crème glacée, mais ce n'est pas de la crème glacée, c'est fake. C'est fake, c'est de la margarine. Et David n'était pas quelqu'un qui aimait la crème glacée, qui aimait la margarine, il était quelqu'un qui aimait la crème glacée, il aimait le vrai. Donc, on va voir trois points que j'ai ressortis. Dans le fond, mon message ce matin, là, ça va être vraiment dans les psaumes. J'ai ressorti plusieurs psaumes que extrait de psaumes que David, qu'on retrouve dans le fond, ces caractéristiques-là pour David. C'est des psaumes écrits par David, bien sûr. Donc, le premier trait, David est vrai parce que David reconnaît ses fautes. Il va dire, dans le psaume 51, il va dire, « Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Et être vrai, premièrement, ce matin, c'est de reconnaître ses fautes. C'est de reconnaître qu'on a besoin d'être lavé. On a besoin, parfois, on a besoin de demander pardon. Parfois, on a besoin de revenir à Dieu et de dire, « Seigneur, je l'ai échappé, là. Je l'ai échappé sur tel domaine. » Et ce qui m'a marqué ici, c'est le mot « lave-moi ». Lave-moi. Imaginez-vous si on prenait seulement quelques douches par année. Ça serait pénible pour certains. Il y en a qui ont des jobs de bureau ou qui c'est des jobs moins pires. Mais ceux qui ont des jobs physiques, si on allait se laver seulement quelques fois par année, eh bien, c'est la même chose spirituellement. On a besoin de revenir à Dieu des fois et simplement de demander pardon. Demander pardon. J'ai mal agi. J'ai parlé mal à cette personne-là. J'ai dit quelque chose. J'ai menti. J'ai fait quelque chose. Pour David ici, c'était l'adultère. Mais peut-être que pour quelqu'un dans vos vies, pour vous dans vos vies, c'est peut-être autre chose. Et vous le savez, il y a peut-être des images qui vous viennent. Et je ne veux pas rentrer là-dedans ce matin, mais on a besoin, pour être vrai, on a besoin de reconnaître ses torts des fois. On a besoin de reconnaître ses fautes et de dire, « Seigneur, lave-moi. » La deuxième raison pourquoi David est vrai, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans les psaumes, c'est que David exprime ses frustrations. Et on va lire ensemble, ça, il dit, « Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? » Ici, il va parler directement à Dieu. Et ensuite, il va dire, « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Donc, on voit que David est capable d'exprimer ses frustrations qu'il a envers Dieu, qu'il a à Dieu, et il est capable d'exprimer ses frustrations qu'il a envers les autres. Et si je vous pose la question ce matin, est-ce que vous parlez vraiment de ce que vous vivez à Dieu? Est-ce que vous exprimez vos frustrations quand il y a quelque chose que vous... Est-ce que quand vous sentez que Dieu est loin, vous sentez que Dieu ne vous répond pas, vous sentez... Ça fait des mois que vous priez pour la même chose, ça fait peut-être beaucoup de temps que vous priez pour que quelqu'un revienne à Dieu, vous attendez une réponse de Dieu, mais vous le trouvez distant. Est-ce que vous êtes capable de lui exprimer? Est-ce que vous êtes capable de dire, Seigneur, je te trouve distant, je te trouve loin, j'ai l'impression d'être abandonné. David va dire plusieurs fois dans des psaumes, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et êtes-vous capable aussi d'exprimer vos frustrations à Dieu que vous vivez par rapport aux autres? Parce qu'on est mieux d'exprimer nos frustrations à Dieu qu'on vit par rapport aux autres que de les exprimer aux autres. On est mieux d'aller voir, c'est un bon truc que David nous donne, de simplement aller vers Dieu et de lui exprimer, telle personne me fait de la peine, mais au lieu de lui casser les dents, comme David lui dit, ou de frapper sur la joue, non, je vais aller vers toi, Seigneur, et je vais t'exprimer ma frustration. Et le prochain bonhomme, vous avez le droit d'être comme ça quand vous parlez à Dieu, quand vous vous adressez à Dieu. Vous avez le droit. Et parfois, dans nos vies, ça m'arrive aussi, à force de venir à l'église, d'avoir cette routine-là avec Dieu, de passer un temps avec Dieu, et ça peut devenir machinal, notre affaire. Ça peut devenir un peu, tu sais, comme ceux qui ont un travail où est-ce que tu es tout le temps... Le frère à Joanny, il travaille dans une usine de portes. Donc, quand il fait la colle, bien, il fait tout le temps la colle. Donc, il fait tout le temps la même chose. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on devient comme ça un peu, on devient machinal. Et quand on s'adresse à Dieu, on devient machinal aussi. On fait la même prière et on répète les mêmes mots, des mots semblables, tout ça. Mais ça ne vient pas du plus profond de ce qu'on vit. Et des fois, on a simplement besoin de venir à Dieu et de lui exprimer nos frustrations. Seigneur, je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens abandonné, je me sens loin. Je sens que j'ai besoin de toi, je sens que telle personne m'a blessé, Seigneur. Telle personne, et j'ai besoin de toi. Donc, on va voir ensemble le troisième point ce matin. Si un conseil que je peux vous donner, c'est exprimer vos frustrations à Dieu. Et j'apprends à le faire aussi. Ça m'arrive de rentrer dans une roue machinale de prière. Mais David nous apprend vraiment à prier Dieu et de lui exprimer nos frustrations, d'être vrai. La prochaine chose que David nous apprend, c'est d'être vrai aussi dans nos émotions lorsqu'on prie à Dieu. On va voir que David crie dans la souffrance. Il va dire, « Quand je crie, réponds-moi. Dieu de ma justice, dans la détresse, tu me mets au large, fais-moi grâce, entends ma prière. » Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans vos vies des situations d'urgence. Tu sais, quelqu'un, tu es en train de jouer au soccer et quelqu'un se blesse gravement, là, il se brise le fémur, je vais donner un exemple. Il se brise le fémur et là, hémorragie interne, on a besoin d'appeler les urgences. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation comme ça, mais la réaction habituellement des gens autour de l'urgence ne va pas être « Oh, t'as-tu un téléphone 911? Oui, allô? Ça va bien, vous? » Oui, quelqu'un vient de se briser le fémur. Prenez votre temps. Tout va bien, tout est sous contrôle. On vous attend. » Et non, ce n'est pas, c'est pas ça qui arrive d'habitude dans les situations d'urgence. Quand il y a de la souffrance ou quand il y a une détresse qui est là, il y a un cri, hey, vite, quelqu'un a appelé les urgences, appelez, vite, il s'apprête, puis il y a un cri qui se passe autour de la situation. Il y a une action qui se fait. Et c'est un peu ce que David fait ici. Lorsque David est dans la souffrance, il crie à Dieu. Il s'exprime, il exprime vraiment ce qu'il vit à Dieu. Et peut-être que vous avez des situations dans vos vies, des fois, qui viennent vous déchirer. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est le deuil, et peut-être que c'est une autre situation. Mais comment est-ce que vous vous exprimez à Dieu? Est-ce que vous vous exprimez à Dieu en criant à lui? Est-ce que vous dites, Seigneur, ça me fait mal. Ça me fait mal, j'ai mal, mais je crie à toi ce matin, j'ai mal, et c'est une urgence. Est-ce que vous avez des urgences à Dieu, à lui remettre? Et David, ici, était quelqu'un qui était capable d'exprimer sa souffrance, était capable d'exprimer l'urgence à Dieu. Souvent, les psaumes que David écrit sont en situation de guerre. Et on va le voir dans le deuxième point, il va souvent parler d'ennemis et d'adversaires. Et David comprenait l'urgence parce que souvent, c'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort, c'était une question de « je ne sais pas si je vais être là demain ». Donc, je suis mieux de me mettre sur les genoux et de prier de toutes mes forces, de prier parce qu'il y a l'urgence. Je ne sais pas si je vais remporter la guerre. Donc, c'est ça pour le premier point ce matin. On est déjà rendu au deuxième point. Soyons des adorateurs comme David dans nos vies. Soyons des adorateurs vrais, pas fake, pas des adorateurs margarine, des adorateurs crème glacée. La deuxième, c'est confiant. J'ai cherché un mot qui allait remplacer la foi. Parce que je me suis dit, foi, tu sais, c'est utilisé beaucoup dans la Bible. Et je voulais pas, peut-être, j'aimais le mot confiant parce que David va placer sa confiance en Dieu. Mais c'est vraiment, ça fait référence à la foi aussi. Il va mettre sa foi en Dieu. J'aimais le mot confiance. Et David était un adorateur qui avait confiance en Dieu. On va le voir souvent dans ses déclarations dans les psaumes. David était un homme confiant. On va voir que David était confiant que Dieu était un bouclier dans l'adversité. Éternel, mes ennemis sont si nombreux, oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Et le bouclier était utilisé à l'époque, est encore utilisé, mais on ne l'utilise pas tant que ça aujourd'hui, mais à l'époque de David, était utilisé comme une arme défensive. Et le bouclier permettait souvent permettait que les flèches ne viennent pas sur toi, permettait aussi que les coups d'épée, d'éviter les coups d'épée. Et il y avait toutes sortes de boucliers, il y en avait qui étaient plus ronds, plus ovales, mais un bouclier était cette arme défensive. Et ce qui me frappait ici, c'est que lorsque David parle à Dieu, il dit « T'es mon bouclier. T'es mon bouclier. » Et il donne une image directe avec ce qu'il vivait, avec la réalité qu'il y avait. Il y avait des adversaires, il avait besoin d'un bouclier pour se protéger. Il va dire « Seigneur, c'est toi ma première protection. Avant même le bouclier que j'ai physiquement, c'est toi mon vrai bouclier. C'est toi mon plus grand bouclier. » Et David avait cette confiance-là que Dieu allait les protéger. Que Dieu allait les protéger. Et si je vous pose la question ce matin, où est-ce que vous trouvez votre protection? Où est-ce que vous trouvez votre sécurité? Est-ce que c'est dans les finances? Est-ce que c'est dans les REER? Est-ce que c'est dans vos enfants? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que vous trouvez votre sécurité dans quelque chose ici-bas? Ou est-ce que vous, comme David, votre bouclier pour avancer, c'est Dieu? Votre bouclier qui vous protège, c'est Dieu. Le prochain point qu'on va voir, c'est que David était confiant que Dieu était son refuge dans la détresse. Il va dire, « Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. » Et un refuge dans la détresse. Hier, on a fêté les 80 ans d'une personne que j'admire tellement, qui est quasiment rendue ma grand-maman. Elle s'appelle Monique Lépine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Monique, c'est la mère de Marc Lépine, le tueur de la Polytechnique. Et Monique, ce qui est particulier, c'est qu'elle a perdu ses deux enfants. Ses deux enfants se sont enlevés la vie. Et sa fille, au travers de la drogue, et Marc, au travers de la tuerie. Et on était avec elle hier pour fêter ses 80 ans. Parce qu'elle est très proche de nous. On a vécu pendant 10 ans en bas de chez elle. Donc, moi, j'allais ramasser les feuilles chez elle. C'était comme une grand-maman pour moi. Et Dieu lui a donné une autre famille. Mais je vais mettre la prochaine diapo. Hier, j'étais là avec mon frère et Monique, entre nous deux. Et ce qui me faisait capoter, je pensais à ça hier, là, hier soir, ce que j'en reviens pas, c'est comment une femme qui a vécu ces tragédies-là peut avoir un sourire aujourd'hui comme ça puis être rayonnante à 80 ans. Et la seule réponse qui m'est venue, c'est que cette femme-là a trouvé un refuge en Dieu. Cette femme-là, lorsqu'il n'y avait plus rien devant elle, lorsqu'elle a perdu ses enfants, il n'y a rien. Moi, je n'ai même pas d'enfants, puis je pourrais même pas m'imaginer perdre mes futurs enfants. Fait qu'imaginez, j'imagine pas ceux ici, là, vous avez des enfants. Il doit y avoir rien de plus tragique sur cette terre que de perdre ses enfants. Mais cette femme-là est un exemple d'une femme qui a trouvé refuge en Dieu. Et comme David, elle a su se tourner vers Dieu dans la crise, dans le désespoir. Lorsqu'il n'y avait plus rien devant elle, elle a tourné son espoir vers Dieu. Et ce matin, si je vous pose la question, où est-ce que vous trouvez votre refuge? Dans les situations difficiles, lorsque la détresse vient, lorsque vous êtes en situation de deuil, lorsqu'il y a du deuil autour de vous, où est-ce que vous trouvez votre refuge? Le prochain point. Oh, je n'ai pas passé un. OK. on va voir que Dieu est un soutien dans la bataille. David va dire « Quand je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. » Et Dieu est notre soutien. Il y a plusieurs, on va souvent voir des psaumes aussi qui vont dire le bras de Dieu, la main de Dieu. Dieu est là, il vous soutient. Dieu vous soutient dans l'épreuve. Il vous soutient lorsque vous êtes au combat. On va voir aussi que David avait confiance que Dieu était son abri face à l'ennemi. Il va dire « Car tu es pour moi un abri, une tour forte en face de l'ennemi. » Et Dieu est littéralement un abri. En éducation physique, j'avais un cours de plein air à la session dernière et c'était un cours de plein air d'hiver. Et on est allé faire une journée en survie. Et ce qu'on devait faire dans cette journée-là, c'est survivre, apprendre à survivre en plein air. Sauf qu'on est tombé sur la journée parfaite, il pleuvait et il faisait environ moins 2, moins 3. Mais non, il faisait 0 à peu près, OK? Parce que puis il pleuvait puis il neigeait par certains moments. Mais il pleuvait quand même des bonnes gouttes. Là, on était au mois d'avril, début avril, je pense. Et on était en survie dans le bois. Il y avait encore de la neige. On était en raquette. Mais tu sais, là, c'est en plein là, la température que tu n'aimes pas avec de la slush. Puis en plus, il te pleut dessus. Et notre professeur, moi, je trouvais ça drôle parce que notre professeur, il nous dit le truc, c'est de rester au chaud et au sec. Mais moi, j'étais là. Mais pourquoi on s'en va dehors quand il pleut si le truc, c'est de rester au chaud et au sec? Et l'objectif qu'on avait, c'était de se monter justement un abri qui allait nous abriter pour pouvoir rester là. Et finalement, on a réussi à faire un abri, mais l'abri était so-so, le vent pognait dedans, ça levait. Tu sais, quand t'es en dessous de l'abri, t'es dans le milieu de l'abri puis tu reçois de l'eau, là. C'est que ton abri n'est pas trop efficace. Et dans le groupe dans lequel j'étais, on a réussi à faire un abri. On n'était tous pas du monde de forêt, tu sais. Fait qu'on a réussi à faire un abri, mais c'était pas efficace, cette affaire. Et on a même fait un feu en dessous de l'abri, mais il pleuvait tellement qu'on avait juste de la boucane dans la face. Fait que j'ai fini la journée que j'étais tout rouge, puis j'avais avalé de la boucane toute la journée. Fait que ça ne marchait pas pendant toute mon affaire. Sauf que je vous donnais cet exemple-là d'abri mal fait, mais Dieu, pour nous, n'est pas un abri mal fait, n'est pas un abri défaillant que tu vas recevoir de l'eau même quand tu es en dessous. David avait confiance que Dieu était une tour forte. Une tour bien montée, un abri bien fait. Et un abri a cet effet-là de chaleur, de protection aussi. Lorsqu'on rentre dans la maison l'hiver, on est protégé contre le froid, contre la neige. Et Dieu est pour nous un abri. David avait confiance que Dieu était son abri face à l'ennemi. Il avait une place où se réfugier, il avait une place où entrer. Non seulement Dieu est un refuge, mais il est aussi un abri. Et une place où est-ce que, lorsqu'il neige, tu peux aller te réfugier, mais on s'entend, la neige, ça peut être toutes sortes de situations. Ça peut être lorsque la bataille, lorsque l'ennemi est là, il y a une place où aller se réfugier et c'est à l'abri avec Dieu. Donc, David était confiant qu'il était son abri. Et le dernier point ce matin, j'ai déjà presque fini. Je suis rapide, je suis habitué de prêcher à des adolescents, donc c'est pas très long. J'ai déjà bientôt fini. Le dernier point, c'est que David avait confiance que Dieu était un rocher dans la tempête. Il va dire, « Lui seul est mon rocher et mon salut, je ne vacillerai pas. » Et je ne sais pas si ceux qui ont entendu parler qui connaissent le déluge du Saguenay. Et la maison ici que vous voyez, c'est la petite maison blanche au Saguenay. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en, si je ne me trompe pas là, avec les dates, en 1947, il y a eu quelques petites inondations au Saguenay. Et cette maison-là était là à l'époque. Elle a été touchée un petit peu et toutes les maisons qui étaient dans le même environ ont été un petit peu touchées aussi. Mais ils ne se sont pas écroulés. C'était des petites inondations. Sauf qu'en 1996, lorsqu'il y a eu le déluge du Saguenay, ce n'était pas juste des petites inondations. C'était littéralement un déluge, c'est pour ça qu'on appelait ça un déluge. Et les maisons sont parties, ils ont levé sous terre et les maisons étaient complètement détruites, ont toutes levées et parties. Et la petite maison blanche, bien sûr, elle a été affectée, c'était quand même un déluge, mais c'est la seule qui est restée debout. C'est la seule qui restait intacte. Et pourquoi je vous la présente ce matin, c'est qu'elle est fondée sur un rocher. C'est une des seules, mais ils ont trouvé que la particularité qu'elle avait, c'est qu'elle était fondée sur un rocher. Donc, elle était déjà plus élevée que les autres maisons, et aussi, elle était fondée solidement sur un rocher. Et dans vos vies, dans nos vies, est-ce qu'on est fondé sur un rocher? Est-ce que c'est... Parce que si tu n'es pas fondé sur un rocher, si on n'est pas, on fonde pas notre vie sur Dieu, comme David le fait, lorsque des petites inondations, ça passe. Les autres maisons ont résisté, petites inondations, il y a un petit quelque chose, un pépin qui arrive dans ta vie, ça passe. Mais lorsque le déluge frappe, lorsque le deuil frappe, lorsque il y a des moments qui frappent dans nos vies, lorsqu'il y a des situations difficiles qui nous font face et qui ressemblent à un déluge, est-ce qu'on est fondé sur le roc? Et si vous êtes fondé sur le roc ce matin, vous n'allez pas être ébranlé. Vous allez être ébranlé. La maison a eu des inondations, mais vous allez rester debout. Et Dieu va être là. Dieu va être encore là. Vous n'allez pas vous écrouler. Vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas quitter Dieu. Vous n'allez pas mettre le blâme sur Dieu, mais vous allez rester avec Dieu. Vous allez vous accrocher à Dieu, même dans les moments difficiles. Et David a fait de Dieu un rocher dans la tempête. Et il va dire, « Je ne vacillerai pas. » Donc, le rocher fait de nous des gens de solides. Dieu nous rend solides. Lorsqu'on met notre foi en Dieu, lorsqu'on place notre confiance en Dieu, il nous rend solides. Il fait en sorte qu'on ne vacille pas. Et j'ai déjà terminé ce matin mes deux points. C'était deux points assez rapides. Et... ce matin, j'avais juste à cœur de prier pour vous, pour votre Église. Après ça, je vais laisser la parole à Jean-Sébastien. Je vais prier que vraiment Dieu puisse faire de nous des adorateurs comme David qui vont être vrais et confiants. On va être vrais, puis on va être confiants. Donc, si vous voulez simplement baisser la tête avec moi, je vais prier. Je vais finir en priant pour votre Église. Seigneur, merci pour cette opportunité ce matin d'apporter ta parole. Merci pour l'exemple de ton serviteur David, Seigneur, qui est un adorateur incroyable. Permets-nous, Seigneur, dans nos propres vies, d'être des personnes vraies. Des personnes vraies, Seigneur. Des personnes qui vont être capables de t'exprimer réellement ce qui se passe au fond de nos cœurs. Des personnes qui vont être capables vraiment de dire qu'est-ce qu'on vit, Seigneur. Permets-nous aussi d'être des personnes qui placent notre confiance en toi. Notre confiance en toi, Seigneur, pas en personne d'autre. Pas en autre chose, Seigneur, qu'on ne place pas notre sécurité, Seigneur, dans les choses ici-bas, mais qu'on place notre confiance en toi, Seigneur. Et ma prière ce matin pour chacune des personnes qui est ici, Seigneur, c'est qu'ils puissent repartir d'ici en plaçant leur confiance en toi. Peu importe les situations, tu vois les situations ce matin, tu vois chacun de nos cœurs, Seigneur, tu connais nos vies, Seigneur, et tu connais les situations, et je te prie que les gens puissent repartir d'ici ce matin avec cette confiance en toi, Seigneur. Cette confiance dans la détresse, cette confiance dans la souffrance, cette confiance dans l'adversité, Seigneur. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Merci encore. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié, Jésus. Amen. Ah, le micro, je l'ai ici.
Vu qu'on a encore du temps un petit peu, on va revenir sur le message ensemble. Qu'est-ce qui vous a béni? Qu'est-ce qui est venu vous chercher? Qu'est-ce qui vous a rafraîchi? Avez-vous perdu de vue que Dieu était votre bouclier puis vous regardiez juste?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.